Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et de retour, évidemment, cette année encore, Jean-Pierre Foulti avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour et bonne année à tous.
Et bonne année également, bonne année européenne, hein, pourrait-on dire, pour cette chronique que l'on reprend en 2020 comme en 2019. On ne change rien. On est au début d'une nouvelle année et d'ailleurs d'une nouvelle série de ces chroniques culturelles autour de l'Europe. Et si j'ai bien tout compris, vous allez nous emmener au musée.
Oui. Et quoi de plus emblématique en effet que le musée quand nous parlons de culture? Nous visiterons ensemble plusieurs grands musées d'Europe, mais aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous nous interrogerons sur ce qu'est un musée, son lien bien sûr avec l'idée de patrimoine, qui est une idée européenne. Et nous pouvons affirmer sans chauvinisme que c'est l'Europe qui a inventé le musée, une idée qu'elle a ensuite exportée dans le monde entier.
Ah, donc les premiers musées seraient apparus en Europe.
Dans le monde grec, le monde hellénistique en tout cas, qui dépassait alors les frontières européennes. Le musée d'Alexandrie, par exemple, dans l'Égypte d'aujourd'hui, fondé au 3e siècle avant Jésus-Christ, est un des exemples les plus anciens de collection. On y trouvait des rouleaux, des plantes, des animaux. Des musées existaient aussi à Athènes, à Éphèse, et le mot musée, il faut le dire, vient du grec mouseion, qui désigne un temple dédié aux muses, les divinités des arts. Le musée deviendra en Europe au fil des siècles un temple de l'art, mais aussi du savoir, nous en parlerons. Il est curieux d'ailleurs de remarquer combien de grands musées d'Europe construits au XVIIIe siècle, comme le British Museum de Londres ou le musée du Prado à Madrid par exemple, reprennent l'architecture des temples grecs. Et dès le XVe siècle, la Renaissance qui, rappelons-le, voue un véritable culte à l'antiquité gréco-latine, on rassemble dans des galeries privées, souvent dans les cours européennes, des vestiges de cette période. C'est le cas du plus ancien musée du monde, l'ensemble des musées du Capitole à Rome, et on ouvrira ensuite ces musées aux productions des artistes de l'époque. C'est ainsi que se sont constituées les grandes galeries italiennes, la célèbre Galerie des Offices de Florence par exemple, où l'on peut admirer des Caravage, des Léonard Vinci, des Botticelli et bien d'autres.
Alors, si je remonte un petit peu dans ce que vous venez de dire, vous parlez des temples de l'art et du savoir.
Oui, avec comme idée fondamentale que l'homme se construit en s'enrichissant de ce que lui a donné le passé. Et cette idée de patrimoine commun même, est une idée européenne. En sauvegardant et en rassemblant des œuvres d'art notamment, on veut, j'ai trouvé la formule intéressante, embrasser la connaissance du monde par des objets.
C'est beau.
Et ce n'est pas pour rien que les écoles, les collèges et les lycées d'aujourd'hui emmènent des classes entières dans les musées.
Et donc, les musées sont des lieux publics, ouverts à tous, on le rappelle.
Ce n'était pas le cas au début.
Ah!
C'est au XVIIIe siècle que les collections qui jusque-là étaient réservées au public choisi par le prince, donc ces collections commencent à être ouvertes à tous, comme ces musées du Capitole dont j'ai parlé à Rome. C'est le cas aussi du British Museum dès 1753 et du Belvédère de Vienne en 1768. En France, il faudra attendre la Révolution pour que le Muséum central des arts, jusque-là réservé aux collections royales, soit ouvert au public sous l'appellation Musée du Louvre. La décision n'a pas été simple alors. En pleine Révolution, fallait-il brûler les tapis royaux ornés de fleurs de lys, détruire les tableaux à sujet religieux, les portraits de ceux que l'on appelait les tyrans? On décida finalement de les sauvegarder au nom de la gloire du peuple français. Et pour notre plus grand plaisir, heureusement.
Si, c'est clair. Et aujourd'hui, donc, ces musées sont ouverts à tout le monde, notamment même gratuitement certains dimanches. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Européens en profitent pour aller au musée?
Alors, je citerai une enquête de l'Eurobaromètre, donc nos statistiques européennes, donc un Eurobaromètre de 2017, qui dit qu'un habitant sur deux de l'Union Européenne déclare avoir fréquenté un musée ou une galerie au cours des 12 derniers mois, et ce, en augmentation depuis l'enquête précédente de 2013. En fait, les chiffres sont très variables suivant les pays. Si 80% des Suédois disent fréquenter les musées, les pays d'Europe du Nord sont, sans surprise, en tête du classement. Ce ne sont seulement que 27% des Portugais, 28% des Grecs. Et nous, Français, on est au milieu de l'échelle, disons.
Il y a une petite marge de progression, alors on va dire ça comme
ça.
Tout à fait. Pour finir, on peut peut-être se poser la question aussi, à qui appartiennent finalement ces musées ?
Alors, dans l'Union européenne, on compte 5 principaux statuts de musées. Je ne les énumérerai pas toutes, mais depuis les musées qui sont intégrés dans la sphère publique, nationale, régionale ou locale, et financés par l'argent public, dont, disons-le aussi, des financements européens par le canal du programme Europe Créative de la Commission européenne, jusqu'aux musées privés dont les ressources proviennent uniquement de la billetterie et des produits dérivés. Pensons, pour donner un ou deux exemples, à ces musées de cire comme celui de Madame Tussaud à Londres ou notre musée Grévin à Paris. Et nous touchons ici un des aspects sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Il s'agit de la diversité de ce que l'on appelle musée. Je vous en donne les principales catégories. Les musées d'archéologie, les musées d'art ou de beaux-arts, les musées d'histoire, les musées de sciences, les musées d'histoire naturelle, les musées des techniques et les musées d'ethnologie. Et à l'intérieur de chaque catégorie, des disparités considérables entre les grandes institutions et les petits musées à rayonnement local. On en trouve d'ailleurs de fort intéressants, quoique très modestes, dans notre propre région. Et j'invite nos auditeurs à en visiter quelques-uns, par exemple le musée Cécile Sabourdi de Vic-sur-Breuil, en Haute-Vienne, le musée de l'électrification à Bourganeuf, en Creuse.
Ou pourquoi pas, à Ambazac, le fameux musée de minéralogie et pétrographie.
Tout à fait, puisqu'il n'est pas loin.
Voilà, exactement. On continuera nous la balade ?
Nous évoquerons quelques-unes de ces catégories de musées dans notre prochaine chronique.
Donc, il ne me reste plus qu'à dire à la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.